passe, hein? On est où, là? Et on est quand?
Nous sommes en 2015!
On est en 2015? Vous voulez dire qu'on est dans le futur?
Le futur? Mais de quoi tu parles? Comment veux-tu qu'on soit dans le futur?
Voyons, comment te dire ça? Tu es... dans une machine à voyager dans le temps.
Et nous sommes en l'an 2015? Alors c'était pas une plaisanterie? Marty, ça veut dire qu'on va voir notre avenir?
Ah, on ne se refuse rien en ce début d'année. Quand même, un extrait de Retour vers le futur choisi par Christophe Humbert. C'est en 1989. Oui, carrément, du Spielberg. J'espère que vous allez bien. C'est au de mon amour parce qu'on n'attend pas le changement, mais que nous sommes le changement en 2014, comme en 2015 et sûrement comme en 2016. Avec aujourd'hui Ludovic Asselot et Arnaud Caillé à la technique et assisté de Carole Debray cette semaine. C'est donc Christophe Humbert qui réalise cette émission. Allez, champagne bio, on va trinquer à cette nouvelle année qui s'annonce riche, peut-être en changement, oui, et peut-être moins en EPR, en passion pour le gaz de schiste, en effet de serre, en aéroport, en algues graciles et vertes, en étalement urbain. Alors, bonne nouvelle quand même, protéinée, on ne mourra pas de faim car c'est une année riche en sangliers, me disait un copain chasseur qui dort en chien de fusil, c'est amusant, sans quitter son gilet jaune, on ne sait jamais. Quel braquet choisir avant d'enfourcher ma, votre petite reine jolie, hein, et d'enfourcher l'année? L'asphalte est trempé de rosée et disparaît dans une brume délicieuse qui sent le feu de résineux dans la cheminée qui n'est pas encore complètement interdit. Quelle route emprunter? Celle qui monte vers des sommets de clairvoyante sobriété? Celle qui monte vers le beau? Ou bien celle qui dévale vers un chacun pour soi, le business as usual, l'économie casino et tentant de faciliter? Ah bien sûr, moi je comprends tout ça, nous dit le triton crété. Tu comprends quoi de la biodiversité, triton? Ah moi je comprends que... PNC à vos portes, welcome en Loire-Atlantique. Nous atterrissons sur Notre-Dame-des-Landes après avoir survolé les 13 hectares de la si jolie retenue de Sivens dans le Tarn. Nous rappelons aux participants du congrès international Zones humides qu'à l'avenir, qu'une navette électrique leur permettra de relier Nantes en 30 minutes. Donc moi, le triton crété, je suis pas du genre à fuir, hein, loin de là, mais je pense que ça va pas être bon cette affaire pour mon genre de beauté. J'hésite encore en 2015 donc à me reproduire. Alors, à la croisée des chemins de l'humanité, la route est encore jolie. Lorsqu'un seul être humain rêve, ce n'est qu'un rêve. Lorsque plusieurs humains rêvent ensemble, c'est le début d'une nouvelle réalité. Alors, en 2015, que les petites graines citoyennes vertes continuent de pousser de la base, germent à travers le monde et grossissent comme les haricots magiques de Jack. Pour monter jusqu'à nos dirigeants, jusqu'à la planète finance et farce et attrape, voilà. Si, si, regardez, le soleil sort, presque éclatant. Oui, oui, mais la région parisienne, c'est pourri, mais c'est pas grave. Non, mais là autour de vous, vous avez du soleil et la route se dévoile en fumant. Les paysages sont superbes, sans avoir besoin de les regarder sur les écrans. Alors peut-être une résolution, n'être pas riche totalement en avoir, mais pauvre en besoin. Ça pourrait nous réconcilier avec le monde, même si c'est loin d'être partagé. Et puis quoi, un peu d'optimisme, que diable. Le paracétamol va passer de 1,95 euros à 1,94, tandis que l'écotaxe nous coûtait 835 millions. Vous comprenez pourquoi, il nous faudra encore peut-être de paracétamol. Mais pour vous la souhaiter bonne, comme on dit chez nous, à l'an qui vient, si on n'est pas plus, qu'on soit pas moins. Belle année à tous.
CO2 Mon Amour, Denis Chessoux, sur France Inter.
Alors ça va être une série, on va dire, de vœux à volonté. Mon petit gars du Schnorr, mon ch'ti préféré, là. Bonjour Frédéric Danhé.
Bonjour Denis Chessoux, bonne année.
Bonne année, surtout à nos amis auditeurs. Mais enfin, ça aussi, on peut se la souhaiter, il n'y a pas de problème. Et puis, on va commencer en rejoignant... moi, j'avais besoin d'un gamin, un jeune qui a deux fois 40 ans pour débuter l'année. Bonjour Jean-Marie Pelt.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Jean-Marie, le journal Lorrain, comment est-il aujourd'hui?
Chez nous, il y a encore un peu de neige.
Oui.
À Metz, il n'y a plus de neige du tout. Chez nous, il y en a encore un petit peu.
Ce qui vous permet de faire du ski de fond?
Sûrement, oui.
Donc c'est ça.
Un petit peu dans le jardin, vous connaissez bien.
Oh bah, bien sûr. Jean-Marie, les vœux. Allez, on y va.
Bonne année. C'est quoi la bonne année? Quelques événements tout récents m'ont donné à réfléchir. J'ai appris qu'un jeune homme de 25 ans avait inventé une application et que son application marchait très, très, très fort. Alors, les grands géants du net ont été très effrayés et l'un un de ces grands géants, on ne va pas le nommer, a acheté l'application pour 2,5 milliards d'euros.
Oh, bah, c'est pas grand-chose, hein, vous savez.
Mais non, alors le gamin, il a gagné 2,5 milliards d'euros en 2 ans.
Oui, c'est ce qui fait rêver notre jeunesse, ça.
Oui. Oui, alors je trouve ça absolument scandaleux. Et j'ai honte de vivre dans une société qui trouve ça normal. Ouais. Parce que je vois, comme tout un chacun autour de moi, de plus en plus de gens très très pauvres, et que cette inéquité dans les répartitions des ressources a quelque chose quand même de très très choquant. Le vœu, c'est que les chefs d'État ne considèrent pas ça comme normal et qu'ils réfléchissent à un moyen de réguler le capitalisme qui est en train de devenir fou.
Ensuite, un autre vœu, Jean-Marie.
Un autre vœu. Alors, autrefois, sur RTL, il y avait l'homme des vœux, vous vous rappelez ?
Pas du tout, non.
Ah si, c'était l'homme des vœux qui faisait des vœux tous les jours.
Non, mais je suis...
Alors, le deuxième
je connais même pas cette radio.
Enfin, le deuxième vœu, depuis un mois... Nous avons les épisodes cadeaux et bouffe tous les jours,
bah oui,
sur toutes les chaînes, à tous les infos pendant un mois. Bon, c'est ce que j'appelle la société de surconsommation. Mais je trouve qu'on aurait pu nous donner en plus des informations récentes concernant le bio. En 2014, j'ai paru une très grande étude portant sur des centaines de milliers de personnes, oui, qui ont mangé du bio. Et on a vu que, petit 1, il n'y a pas de pesticides ou des traces infimes parfois sur le bio. Petit 2, dans le bio, il n'y a pas de métaux lourds. Petit 3, dans le bio, il y a plus de nutriments à poids égal parce qu'il y a moins d'eau. Petit 4, ah, ça c'est très important, le petit 4, c'est que les nutriments bio ont des propriétés anti-radicaux libres qui nous protègent des maladies de civilisation, cardiovasculaires, cancer et Alzheimer. Et ça, c'est maintenant prouvé. C'est tout récent.
Nous sommes ce que nous mangeons une fois de plus.
Voilà. On a entendu répéter et répéter par les organismes officiels que le bio et le pas bio, c'était la même chose. Ça n'est pas la même chose. Nous l'avons toujours dit. Oui. Voilà, on ne s'était pas trompé. Ça, il faut que les gens le sachent. Et mon vœu, eh bien, c'est qu'en effet, le bio démarre en force parce que c'est bon pour la santé. On mange mieux et on vit plus vieux.
Vous avez droit encore à un vœu, Jean-Marie.
J'ai droit encore à un vœu.
Oui, rapide.
Alors, je vais prendre un vœu qu'a formulé avec une apparente conviction le président de la République quand il nous a offert ses vœux avant-hier soir. C'est que la grande conférence sur le climat qui tiendra à Paris en fin d'année soit un succès. C'est très important. Nous sommes dans une période de réchauffement climatique. Tout le monde a vu ce qu'était cet automne dans le sud-est, avec des inondations effrayantes à répétition, ce qui n'était jamais arrivé, qu'on n'avait jamais vu.
Accentué par l'urbanisation, hein, aussi.
Oui, aussi, aussi. Il y a beaucoup de facteurs qui jouent. Mais il y a des précipitations qui sont beaucoup plus fortes, parce que la Méditerranée est plus chaude. Voilà. Il y a tout un tas de facteurs qui jouent. Mais ce qui serait donc nécessaire, c'est qu'on diminue enfin d'une manière significative les dégagements de gaz à effet de serre et que les États arrivent enfin à réduire ces gaz qui produisent l'effet de serre pour que le climat n'augmente pas de plus de 2 degrés à l'horizon 2050. Si ça augmente de plus de 2 degrés,
ce qui sera le cas,
la mer monte beaucoup, les accidents climatiques majeurs se multiplient, les catastrophes se multiplient, elles sont plus intenses, c'est le drame absolu.
Une petite note positive aussi.
Une petite note positive.
Bah oui, pour ne pas s'arrêter sur le,
eh bien,
sur le climat.
Grâce au progrès, je vais tous les jours de mieux en mieux.
Bah oui, eh bien, c'est vrai. C'est exact. Et vous galopez comme un petit lapin avec des piles formidables maintenant. Donc,
comme un petit lapin.
C'est ce que je vous souhaite.
Je suis parti pour une année où on sera très actif avec en particulier mon ami Pierre Rabhi, puisque nous avons fait le bouquin ensemble, le monde a-t-il un sens.
Ben oui, et puis là, vous allez l'entendre dans quelques instants. Hein.
Tous les deux.
Bien sûr.
Et nous ferons avancer les mentalités, les prises de conscience, et petit à petit, on verra naître les débris de l'ancien monde qui est très malade, quelque chose de neuf qui apparaîtra,
voilà,
et qui sera plus orienté vers la solidarité. J'y crois vraiment.
Merci beaucoup, Jean-Marie. On vous embrasse. À très bientôt.
Au revoir, Denis. chez Sou. Au revoir à tous.
Merci. Bah oui, peut-être même carrément à la semaine prochaine. On n'a pas encore concocté le programme. En revanche, ce qui est sûr, c'est que Pierre Rabhi, c'est dans quelques instants, ça va être chez lui dans son jardin en Ardèche. C'était pas la même saison. Ah bah non, non, non. Quitte à tourner un sujet, autant, c'est pas la peine d'aller geler, forcément. Et puis, je vous propose une bonne année, mais musicale. Les Fabulous. À vous de compléter. Trou bas, dour.
Pour l'emmener à ma maman.
Bonne année à mon papa.
Bonne année à mes grands-parents.
Bonne année à mes enfants.
À nos voisins de palier.
Et à tous ceux du quartier.
À nos proches même lointains.
Bonne année aux Toulousains.
Nous souhaitons la bonne
année à nos familles, à nos voisines.
Nous souhaitons la bonne année
à tous nos concitoyens.
Bonne année à nos amis.
Et aussi à nos ennemis.
À tous ceux que l'on connaît.
À ce que l'on méconnaît.
Bonne année aux Champenoises.
Aux Corses, aux Laras et toi.
Bonne année aux Marseillais.
Aux Sétois, aux Bordelais.
Bonne année aux Parisiens.
Aux Niçois, aux Alsaciens.
Aux Bretons, aux Catalans.
Aux Gascons et aux Flamands.
Aux Ch'timis, aux Vendéens.
Aux Lyonnais, aux Limousins.
Aux Gitans, aux Auvergnats.
Aux Provençaux, etc.
Nous souhaitons la bonne année. À toutes nos connaissances,
nous souhaitons la bonne année à tout le peuple de France.
Bonne année en Algérie,
bonne année en Kabylie,
bonne année aux Irakiens,
bonne année aux Américains,
bonne année aux Israéliens,
bonne année aux Palestiniens,
aux Inuits, aux Moluques,
aux Kanaks, aux Javanais,
et aux Mandchous et aux Evenkis,
aux Mongols et aux Tchouktchis,
aux Amaras,
aux Oromas, aux Sidanas,
aux Sindhis, aux Pamiriens,
aux Bengalis, aux Cachemiriens,
aux Yakoutes et aux Frisons,
aux Sommets, aux Lettons,
aux Tamouls, aux Telugus,
aux Keizans et aux Papous,
bonne année aux Aoussas,
aux Mangos, aux Baloubas,
bonne année à tous les ailleurs,
cachés à nos projecteurs,
nous souhaitons la bonne année.
À tous les peuples du monde, nous souhaitons la bonne année. À tout le monde à la ronde,
nous souhaitons la bonne année.
À tous les peuples du monde, nous souhaitons la bonne année. À tout le monde à la ronde.
Bonne année aux amoureux,
bonne année aux malchanceux,
bonne année aux esselés
et aux hospitalisés,
et à ceux qui vont se faire opérer. On souhaite une bonne anesthésie. SDF.
Et aux coupés de l'EDF.
Bonne année au Père Noël.
Et aussi à la Mère Michel.
Bonne année à son petit chat.
Et à celui qui le trouvera.
Et celui qui le mangera.
Ça, c'est une idée de Thierry Dupin, notre programmateur donc, sur France Inter. Cette bonne année, les Fabulous Troubadours, bien sûr. Bah ouais, on était bien sûr du côté de Toulouse. Rendons quand même aussi un retour vers le futur, ce qui lui appartient, autrement dit, à Robert Zemeckis et non pas à Spielberg. Bon ouais, ouais, Christophe Imbert, c'est effrayant. Bon bref, donc non, c'est bien Robert Zemeckis. Ah, une jolie musique. On va partir donc de Toulouse pour aller, cette fois-ci, en Ardèche. Informer, alerter, expliquer, vous faire sourire, mettre en avant des gens qui bougent, qui pensent déjà la Terre autrement. Bah voilà, c'est le credo, vous le savez, de cette émission, c'est au de mon amour. Et c'est le cas aussi d'un homme avec qui nous allons passer un joli moment, que vous connaissez, eh oui, vous le connaissez bien, donc Pierre Rabhi, Le monde a-t-il un sens, ce qu'ils ont écrit ensemble. Beau succès d'ailleurs de librairie avec Jean-Marie Pelt. Penseur et puis acteur agissant de l'environnement, rencontré là, chez lui, dans son jardin en Ardèche, il y a quelques mois. Alors, c'est pas un contestataire comme les autres, on le sait, c'est pas un rêveur. Son discours est étayé par une expérience, une spiritualité personnelle, puis aussi un pragmatisme, une mise en pratique, une manière différente d'être relié à la terre, au sol, aux autres. Alors, profondeur de champ, de jardin et hauteur de vue, avec Pierre Rabhi, pour bien débuter l'année, chez lui, en Ardèche.
D'abord, nous avons la chance d'être sur une espèce de plateau dégagé. Donc, on voit 17 clochers de chez nous, évidemment, en circulant un peu, bien sûr. L'Ardèche a cette caractéristique, c'est qu'elle est très diversifiée. Ouais. Donc là, nous sommes dans le calcaire. Et là-bas, on voit en face le grès, juste le piémont, un petit peu moins. un peu plus au-dessus, c'est le schiste. Et si on monte encore davantage, on a le granit. C'est-à-dire qu'il y a une diversité de roches, de terrains, qui évidemment produisent aussi une diversité. Ça a une influence sur la diversité végétale, probablement sur la faune, sur beaucoup de choses. Et en peu de temps, on fait juste quelques kilomètres et puis on est dépaysé. Moi, il m'est arrivé d'aller dans un endroit, faire quoi, 50 kilomètres, et de me dire, mais c'est le Canada, c'est je ne sais pas quoi. Voilà. Alors, c'est un calcaire fissuré. Hein.
Oui.
C'est-à-dire que l'eau ne reste pas non plus. Donc, on n'a pas les meilleures conditions, disons, pour faire de l'agriculture.
On est quand même sur une mer de rochers. Il faut imaginer quand même un homme qui est ouvrier spécialisé et puis qui arrive dans les années 60. Là, vous êtes tout jeune, vous avez 23, 24 ans ou...
Oui, c'est-à-dire que le choix que j'ai fait de retourner à la terre, évidemment, n'est pas simplement un choix, disons, d'aller faire le métier de paysan. C'était une protestation extrêmement sérieuse et assez virulente contre notre modèle de société. Non pas dans le sens, si vous voulez, d'une réactivité stupide, mais à la fois, je ne pouvais pas me départir d'une idée selon laquelle nous étions dans ce microcosme complètement aliénés, quoi. Sous le prétexte qu'on nous donnait un salaire à la fin du mois, on devait donner notre vie entière à produire et consommer. Donc c'est, disons, le paradigme lui-même fondamental de cette société que j'ai totalement récusé. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit... Le seul peut-être espace dans lequel je peux reconsidérer l'espace et le temps,
oui.
C'est un retour à la terre.
Voilà, faites attention parce que là on passe à côté des mûriers, des ronces. Oui, mais enfin des ronces nourricières.
Il y a des grappes de mûres.
Oui.
Qu'on
est prêt à accueillir. Hein, non, il
Absolument.
Nous reste encore 15 jours à peu près.
Voilà, oui, voilà. Là, tout est bon malgré. L'austérité et la difficulté du lieu. Ce lieu, on s'y est attaché extrêmement fort. Et donc, nous y vivons maintenant depuis 45 ans.
Ouais. Et c'est vraiment votre laboratoire, parce que c'est là aussi que vous avez créé, donc forgé votre idée d'agroécologie. Alors, on va peut-être aller voir, je ne sais pas, peut-être un bout de... Là, on est dans votre petit champ d'olivier.
Donc, l'agroécologie... Quand j'ai fait mon retour à la terre, je n'en avais aucune idée.
Ouais.
J'ai été ouvrier agricole. Pour apprendre vraiment, et c'est là que j'ai découvert finalement les exactions commises contre la nature par l'apport massif de pesticides, ce qu'on met dans la terre, ce qu'on projette, c'est les organochlorés, phosphorés, etc. Et donc, à partir du moment où j'ai vu qu'il y avait une espèce de... comme une déclaration de guerre à la vie, évidemment, ça ne m'a pas du tout convenu. Je veux être en harmonie avec la nature, je ne veux pas être un ennemi de la nature et un destructeur de la nature. C'est très curieux parce que dans le mental des gens, on oublie complètement que nous sommes de simples mammifères.
Ouais.
Nous sommes d'abord des mammifères, nous mangeons, nous déféquons, nous faisons de l'amour, nous reproduisons, etc., etc., comme n'importe quel mammifère. Simplement, il semblerait que nous ayons un privilège particulier. Nous sommes érigés, droits, nous avons une tête sphérique, et puis, semble-t-il, nous avons de l'intelligence. Ce dont je doute d'ailleurs, parce que je vois le résultat qu'on a obtenu sur notre magnifique planète. Oui, moi je suis vraiment, mais tout le temps dans un émerveillement sans limite. Et tout ce que nous trouvons à faire de cette beauté, c'est de l'enlaidir, c'est de la détruire, c'est de croire que nous en sommes les patrons, etc., etc. Nous ne sommes pas évolués. Parce que si nous étions évolués, eh bien, nous ne ferions pas de cette merveille le désastre que nous sommes en train d'en faire.
Alors c'est pour ça que vous appelez depuis longtemps une insurrection des consciences. On aura beau faire tout le bio que l'on veut, mais si on ne change pas de conscience fondamentalement, vous dites qu'on n'arrivera pas forcément à grand-chose.
Mais c'est d'une telle évidence, si vous voulez, le monde tel qu'il est, qu'est-ce qu'il a fait? Ce ne sont pas les baleines, je veux dire le monde de l'organisation humaine.
Oui.
C'est quand même ni les baleines, ni les éléphants qui ont organisé le monde. C'est notre conscience qui a voulu ce monde. Bon. Ce monde, malheureusement, notre histoire est une traînée sanglante depuis les origines. Moi, quand j'étais à l'école, on n'arrêtait pas de m'apprendre les batailles, qui a gagné qui. Enfin, j'avais presque le sentiment, en tant que petit saharien, que les gens passaient leur temps à se battre. Voilà,
ils étaient en guerre tout le temps.
Ils étaient tout le temps en guerre. En plus, on nous cassait la tête parce qu'il fallait retenir les dates des victoires et des machins. Alors, ça me donnait des migraines absolument incroyables. Et du coup, toute cette stupidité, disons, il fallait l'avaler. On est passé à côté des grands questionnements qui nous ramènent à notre nature, à ce que nous sommes et à ce que nous devons véritablement apprendre pour évoluer. Oui. Alors, on a des connaissances énormes, mais sommes-nous évolués ? Non.
Pour vous, Pierre Rabhi, qu'est-ce que c'est la sobriété heureuse ?
La sobriété heureuse, pour moi, c'est avant tout la voie de la libération. C'est-à-dire que nous sommes tous impliqués dans une société qui nous dit « vous n'avez jamais assez ». C'est une dynamique de la frustration qui est orchestrée de telle façon qu'elle est subliminale. C'est-à-dire qu'elle atteint l'être humain dans ses représentations. Et qu'est-ce qu'on dit à l'être humain dans ses représentations ? Eh bien, tu n'as pas assez, tu n'as pas ci, tu n'as pas ça, tu serais mieux si tu avais une plus jolie bagnole, on te regarderait mieux, etc., etc. Donc, elle prend l'être humain par sa subjectivité et avec une manipulation machiavélique, finalement, qui fait croire à l'être humain qu'il est misérable. Voilà, il est misérable. Alors que la sobriété, c'est la façon de dire...
On va passer entre vos deux plants de vigne, voilà.
De dire, lutter contre un système tel qu'il est, c'est très difficile. Par contre, il y a une chose que j'adopte parce que j'y trouve véritablement du bonheur et de la légèreté, c'est la sobriété. Elle est légère. Oui. On n'est plus dans un toujours plus et de l'insatisfaction. Parce que ce qui est frappant dans notre monde hyper riche, c'est qu'il y a abondance et insatisfaction à la fois. Parce qu'on met le seuil de satisfaction tout le temps très élevé et du coup, on n'y arrive jamais. Alors du coup, on a des gens qui sont toujours frustrés de quelque chose qu'ils n'ont pas et ils ne savent pas voir ce qu'ils ont déjà et qui devrait les réjouir pleinement. Et ensuite, c'est une libération parce qu'une fois que j'ai répondu à mes besoins légitimes de survie, eh ben j'ai du temps pour m'occuper de mon intériorité. Je dois avoir le droit aussi de perdre du temps à la condition de ne pas être à la charge de qui que ce soit.
Alors Pierre Rabhi, là on est en train de marcher dans votre grand jardin, on entend des rires d'enfants, alors ça c'est quand même de l'avenir, ça fait aussi beaucoup de bien. On a les gorges de l'Ardèche, bien qu'elles sont presque à nos pieds, de l'autre côté on a le Chassezac, qui est une rivière qui coule depuis la Lozère, voilà.
L'affluent de l'Ardèche.
Affluent de l'Ardèche, ouais.
Oui.
Vous êtes crédible en fait depuis très longtemps, Pierre Rabhi, parce que justement vous mettez vos paroles en acte, vous démontrez donc les choses. Et je crois que les gens cherchent de plus en plus, on le voit très bien à travers des débats, des conférences, ils cherchent du sens, oui. Ils cherchent de la cohérence. Le monde moderne prétend libérer l'homme en fait de l'obscurantisme en l'incitant donc à user de sa raison. Mais derrière tout ça, il y a quand même tout un système qui est presque de la monoculture, aussi bien agricole que de la monoculture de la pensée.
Derrière tout ça, il y a la dévotion et la toute-puissance que nous avons donnée au lucre. C'est pas autre chose. C'est ça qui perturbe l'humanité. C'est-à-dire que tout ce que nous inventons, c'est le service du lucre, constamment. Et dans ce monde-là, vous savez, on n'acquiert pas son truc de chevalier en allant exposer son corps dans le champ de bataille. On l'acquiert simplement parce qu'on est très astucieux, qu'on sait faire des affaires, qu'on sait gagner de l'argent. Alors toute cette masse de gagneurs d'argent constituant en confrérie internationale, on finit finalement par dominer le monde. Et donc aujourd'hui, on est tous subordonnés à ce pouvoir. Et c'est pour ça que bon, on peut en sortir que par la sobriété.
Oui, parce qu'en fait, on passe sur le côté, la terre nous appartient, alors que c'est l'inverse.
Évidemment, cette espèce de hold-up illégitime, c'est un véritable hold-up que sous prétexte que j'ai de l'argent, je peux acquérir un bien commun plus précieux que moi et plus précieux que tout. C'est-à-dire le bien commun qui est indispensable à la survie des générations qui viennent. Et je ne comprends pas qu'il ne puisse pas y avoir une réglementation internationale mettant les biens communs, l'eau, la terre, tout ce qui est nécessaire à la survie, comme n'étant absolument pas subordonnable à une spéculation quelconque. C'est le bien sacré, le bien commun qui doit être préservé.
Alors, vous n'êtes pas dans l'utopie, hein. Vous êtes peut-être dans une forme parfois de rêve, mais comme vous le dites, un rêve plus un autre additionné, ça commence à devenir une réalité.
Je crois à deux lois. Il y a la loi de ce qu'on appelle le ferment. Vous voulez faire du pain, vous prenez un petit truc, vous faites un petit peu de levain, vous le mettez dans le levain, il va agir sur la masse. Voilà. Vous avez la loi du chaos, c'est-à-dire que les choses se détruisent, se déstructurent, mais tout ce que se déstructure prépare à une autre construction. Je crois en la contamination positive. À partir du moment où ce qu'on a inventé est juste, il doit être mis à l'épreuve, évidemment, hein, de la vérité. Et ça ne doit pas être un truc qui me fait mousser, etc. Mmh. Je dois le mettre à l'épreuve de la vérité. Moi, j'ai tout essayé instinctivement de mettre à l'épreuve de la vérité. Quand je parle d'agriculture biologique, je n'en parle pas comme ça, comme une théorie générale. J'ai expérimenté chez moi, à mes risques et périls, je l'ai transposé ailleurs et je vois que ça marche. Donc à partir de ce moment-là, ben on est dans le témoignage de vérité, et cette vérité mise à l'épreuve des faits, eh bien on peut à ce moment-là, sans scrupule, en parler. Et c'est pour ça que je suis péremptoire dans ce que je dis. Ce qui me donne le droit d'être péremptoire, si on veut, ce n'est pas parce que j'ai une théorie de plus, une antithèse de la thèse d'un tel, du professeur machin chouette ou autre. C'est véritablement la mise à l'épreuve d'une réalité tangible, à laquelle je me suis confronté, avec bonheur d'ailleurs, hein, cette confrontation n'est pas douloureuse, au contraire, c'est mon chemin d'initiation, et dont les résultats mettent absolument en évidence, et ça c'est absolument incontestable, que l'approche agroécologique est la seule approche possible aujourd'hui pour obtenir que les populations du monde puissent accéder légitimement à la nourriture qui leur est nécessaire.
Alors ça, on n'est pas sûr du tout qu'aujourd'hui ce soit véritablement le choix. Je sais que vous n'êtes pas du tout dans l'opposition frontale, et puis ce n'est pas votre caractère non plus, mais face, je dirais, à des agriculteurs là, qui nous entendent, qui font leur boulot comme ils peuvent, qui sont très souvent surchargés de dettes, bon, à part quand même une poignée de quelques-uns là, qui fonctionnent très bien, parce qu'il y en a qui gagnent très bien leur vie, mais ce n'est pas vraiment la majorité, on le voit aussi bien sur le problème du lait, sur le problème de la viande, enfin, etc. Eux sont effectivement dans un système, et en plus on leur dit, vous allez nourrir le monde, c'est ce que l'on peut comprendre, hein. c'est une fierté d'agriculteurs, de paysans aujourd'hui, mais vous pensez que ce système-là, il est peut-être en fin de voie ou...
Alors soyons très clairs, moi je n'ai absolument pas, disons, je ne fais pas le procès des gens et des individus, je fais le procès d'un système qui a aliéné l'être humain. Le progrès qui était censé nous libérer, ben, il nous enferme. De la maternelle jusqu'à l'université, on est enfermé. D'ailleurs l'université, les jeunes appellent ça le bahut. Oui. Ensuite, vous tombez dans les casernes. Ensuite, quand vous demandez aux gens où est-ce que vous travaillez, tout le monde travaille dans des boîtes, des petites, des grandes boîtes, etc. Même pour aller s'amuser, on y va en boîte. Oui. Et puis, on y va dans quoi ? Ben, dans sa caisse, bien sûr. Et puis, vous avez la boîte dans laquelle on stocke les vieux en attendant la dernière boîte ou la dernière urne que je vous laisse deviner. C'est un système abject parce que c'est un système qui est fondé sur l'aliénation de l'être humain, et c'est ça ma douleur. Je souffre pour l'humain aliéné. Et par ailleurs, il faut savoir que, bon, il y a d'un côté les opprimés, de l'autre côté les oppresseurs. Eh bien, cherchez chez les opprimés, vous trouverez des oppresseurs. Quelqu'un qui est oppresseur de par sa nature, il peut être perçu comme une victime. On ne peut pas faire le clivage entre d'un côté les bons et d'autre côté les mauvais, d'un côté les... Moi-même, je ne m'abstrais pas du tout de ma responsabilité dans ce monde-là. Mais la douleur dans l'âme, je suis bien obligé de dire que j'ai une voiture, que chaque fois que je fais le plein, ben j'enrichis telle ou telle multinationale, et que je suis aussi compromis que n'importe qui. C'est simplement à partir de cette compromission que je suis bien obligé d'assumer, parce que sinon ben je ne bouge pas. Je veux dire, voilà. À partir de là, eh bien j'essaye d'agir pour autre chose puisse se réaliser. Parce que si je me contente que de protester, je ne serai pas honnête avec moi-même. Je proteste, mais j'agis en même temps pour qu'autre chose puisse se réaliser.
La balade n'est pas terminée dans CO2 mon amour. Non, pas de problème, simplement. Petite pause musicale qui ne déplairait pas, parce que je sais qu'il aime cet homme, ce chanteur. Sur France Inter ? Oui ? Vous allez bouger, c'est obligé. Ah oui.
Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking where the mountains help the sun come into sight.
And by the little jewelry shop we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger.
In the meantime, let me tell you that I love you.
Buonasera, senorina, kiss me goodnight. Buonasera, senorina, kiss me goodnight. But the red do that to the pot, bona bani boat, but do the battle boat. Buonasera, senorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper, buonasera. With that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, senorina, we'll go walking where the mountains of the sun come into sight. And by the little jewelry shop we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger.
And in the meantime, let me tell you that I love you.
And linger while I buy a wedding ring for your finger.
In the meantime, let me tell you that I love you.
Buonasera, senorina, kiss me goodnight. Buonasera, senorina, kiss me goodnight. Buonasera, senorina, kiss me goodnight.
Qu'est-ce qu'il va falloir faire?
Eh bien, il va falloir les assommer.
Ouais.
Et les tuer,
oui.
Bien entendu.
Aïe,
voilà.
Aïe.
Alors, pour les tuer, viens là, ma biche. Viens là, ma biche. Viens là. Là, il ne faut pas être en grande tenue.
Eh oui.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Tu ne remueras plus.
Sur France Inter.
Oui, pardon. Désolé, hein, c'est comme ça. Après avoir poussé l'oncle les meubles pour faire un rock, bon, ça manque de filles quand même dans le studio, il faut bien dire. Pour Buenasera, oui, bah oui, c'est Christophe Imbert qui a trouvé cette belle chose. Prenez passer au premier degré. Oh, bah non, mais quand même. Alors, bon, avant de causer un peu avec vous, cher Frédéric Doré, on va poursuivre donc ce voyage sur France Inter. Avec donc Pierre Rabhi, toujours chez lui en Ardèche. Bon, ouais, on change de climat là, c'est pas facile.
Passe là sous un oui. Votre tunnel d'olivier, et puis à côté il y a des rangs de vignes. Voilà, avec le vert argenté de l'olivier, c'est extraordinaire. On a déjà donc ces fruits. Il faudra attendre quoi, l'hiver, hein, pour les cueillir.
L'automne. Oui, l'automne. Puis ouais. Là il y a des courges qu'on appelle les butternuts. C'est une magnifique courge qui se conserve bien, qui est bonne. Et ça je l'aime beaucoup. Là vous avez du raisin noir, blanc, etc.
Ouais.
Et puis voilà, c'est-à-dire que c'est un ensemble de choses.
C'est trop tôt, mais j'ai quand même goûté.
Si les murs. Nous rassemblons tout ça.
Non, il est. On va attendre encore un petit peu.
Oui, encore acide, mais il y a les frelons qui se servent aussi.
Oui.
Ouais. Ah oui. C'est la vie.
Pierre Rabhi, comment on peut aider les gens, je dirais, à réviser. Les uns les autres nos modes de consommation, parce qu'on est quand même dans un système dominant que l'on connaît par cœur, qui est bien huilé, qui a quand même intérêt à déresponsabiliser plus ou moins les individus. Dès qu'on est, un gamin entend parler de consommation, de PIB, de croissance, de toujours plus, alors qu'on sait que les arbres ne montent pas au ciel. Donc, est-ce que vous êtes foncièrement pessimiste ou bien vous vous dites non, il y a quand même des sorties possibles. Comment on peut bouger les uns les autres?
Oui, cette question qui revient souvent, on me dit est-ce que vous êtes pessimiste ou optimiste? Moi, je reprends un peu la phrase de Bernanos qui disait le pessimiste c'est un imbécile triste et l'optimiste un imbécile heureux.
Oui. Je pense qui vit mieux, quoi. Voilà.
Bah, c'est un stratagème pour pouvoir quand même se rasséréner quelque part.
Il y avait Voltaire qui disait, moi, je préfère être du côté du bonheur parce que c'est meilleur pour la santé.
Exactement. Donc, moi, je ne cherche pas du tout à rentrer dans une quelconque autosuggestion.
D'accord.
Par contre, il y a des faits, il y a des réalités. Et justement, l'agriculture nous oblige le rapport à la nature nous oblige à être des gens concrets qui ont des faits. Les faits sont qu'aujourd'hui, quand on regarde l'évolution générale de notre histoire, et qu'on prend les différents paramètres, la plupart des paramètres sont négatifs. C'est-à-dire menaçants, non pas parce que la nature méchante nous en veut, c'est fondé sur nos transgressions.
Non, mais une fois de plus, vous n'êtes pas non plus rousseauiste, hein, c'est-à-dire que la nature, elle est ni bonne ni méchante.
Hein. Voilà. Ben, la nature, il y a des lois rigoureuses, c'est-à-dire qu'elle, c'est comme si c'était un principe, il faut que la vie vive. Et il faut que la vie vive à tout prix. C'est ce qui me frappe. Il faut que la vie vive à tout prix. Alors, les décisions qu'elle prend, les stratagèmes qu'elle met en place sont destinés à cela. Voilà. Donc, point final. Il n'y a pas ni bon ni mauvais. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'en fait, les différents paramètres qui président véritablement à la pérennité à la suite de l'histoire sont aujourd'hui tous négatifs. Voilà. Alors, on peut se dire... ça va aller jusqu'au bout, de transgression en transgression, l'être humain va s'éradiquer lui-même sans même s'en rendre compte. Ou bien, ce que je vois aussi, je vois quand même poindre de plus en plus une vision nouvelle qui nous fait sortir, disons, de la société de l'avoir vers la société de l'être. Je rencontre même des étudiants qui, de plus en plus, ne sont plus dans cette ambition de la carrière, mais plus dans une quête, pas réussir seulement ma carrière. C'est pas la réussite de la carrière qui prime. Maintenant, si je peux réussir et ma carrière et ma vie, tant mieux. Mais il arrive que je réussisse ma carrière, mais que je loupe ma vie. Je n'ai pas regardé les étoiles, je n'ai pas vu les fleurs, je n'ai pas écouté le chant des oiseaux, je n'ai pas été présent à ceux qui m'entourent, à mes enfants, à ma famille, etc., etc. Donc, je me pose la question, ai-je vécu? Et qu'est-ce que veut dire vivre aujourd'hui? Est-ce que vivre aujourd'hui, c'est simplement naître au monde, apprendre, acquérir des connaissances qui vont me faire de moi un bon producteur consommateur jusqu'à la fin de mes jours et on me demande de travailler 2 ans de plus, etc., etc. Ou est-ce que je suis né, incarné réellement pour être présent à cette réalité vivante qui est la nature et de jouir et d'être nourri de cette réalité naturelle pour mon épanouissement? Et à ce moment-là, la mort va me devenir banale parce que j'ai bien vu que tout naît, meurt, se dissipe. Maintenant, qu'est-ce qu'il advient après? C'est plus mon souci. Mais la plupart du temps, on passe son temps dans des bibliothèques à essayer de comprendre s'il existe une vie après la mort. Et finalement, la vie qui est là, qui existe, on n'est pas présent à cette vie. On n'est pas présent au monde tel qu'il est.
Pierre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être soi-même ce fameux petit colibri, donc cet oiseau amérindien qui prend sa petite goutte d'eau lorsqu'il voit son incendie et puis qui apporte sa goutte d'eau et puis qui fait sa part lui-même.
Oui, je pense que on peut. Les lamentations sur le monde qui va mal sont nombreuses. Tous les jours, on a des revues qui nous disent ça va mal.
Il y a tout ce qu'il faut.
Il y a tout ce qu'il faut vraiment pour. Bon, presque suicidé, tellement c'est désespérant parfois.
Et en tout cas, maintenir les gens dans leurs conditions en se disant, après tout, même si moi je ne suis pas forcément très heureux, ça ne va pas si mal que ça. Vous voyez, il y a un truc comme ça.
Oui, il y a toutes sortes de stratagèmes que l'on trouve pour être à peu près dans une forme de cohérence ou de résonance intérieure que l'on estime confortable.
Ah oui,
c'est-à-dire qu'on recherche le confort de mille manières, hein, par des idées, par tout un tas de choses. Mais la réalité, elle est que le potentiel, disons, le caractère même de la nature, dans ce qu'elle a d'irrévocable, auquel nous devons nous-mêmes notre vie et notre survie, est profondément atteint. Bon, profondément atteint, je n'ai pas de souci pour la planète. Je vous parlais tout à l'heure des bactéries. Et les bactéries, c'est une puissance absolument incroyable. On ne va pas détruire la planète Terre, ce n'est pas vrai. Il suffit d'être jardinier pour se rendre compte. Vous avez votre plate-bande de carottes, etc. Vous essayez de la soigner et pof, il y a l'invasion d'herbes, que l'on dit mauvaises herbes, enfin qui sont des herbes sauvages simplement, qui envahissent et qui reprennent tout. Si l'humanité s'absentait 50 ans de la planète, tout serait à refaire. Les autoroutes, les machins, les trucs. Tellement il y a une puissance extraordinaire de la vie. Donc moi, je ne crois pas que ce soit cela. On fera du mal, on fera du tort. Il ne faut pas le nier. Mais faire disparaître la planète, non. Bon, reste maintenant l'espèce humaine. Alors l'espèce humaine, et on dirait qu'elle met un malin plaisir à s'éradiquer elle-même. Elle détruit ce qui lui donne la vie. On se nourrit très mal, on s'empoisonne avec des nourritures insalubres. On bétonne la terre qui nous nourrit, on détruit de mille manières, on pollue de mille manières, etc. etc. Alors, on peut se dire, bon, il n'y a pas d'issue. Non, je crois qu'à un certain moment, quand on aura compris, comme disait une prophétie indienne, quand vous aurez épuisé le dernier poisson, détruit le dernier arbre, vous vous apercevrez que l'argent, ça ne se mange pas. Et on va s'en apercevoir très très rapidement. Par contre, bon, j'ai un certain pressentiment quand même de conscience qui aujourd'hui sont en train de s'éveiller, c'est-à-dire sortir de leur inconscience pour arriver à quelque chose qui nous rétablit dans l'ordre universel. Et dans cet ordre symphonique qui est absolument extraordinaire que représente la vie, les étoiles, enfin, quand on parle écologie, c'est pas seulement la Terre, c'est aussi les étoiles, c'est aussi le Soleil, c'est tout cela l'écologie, et c'est ce que ça fait résonner en nous de profondément important, c'est aussi de l'écologie. Quand j'admire un arbre magnifique, c'est de l'écologie. L'écologie n'est pas simplement l'étude des faits et rationnels que l'on peut mesurer, pondérer, c'est aussi tout notre ressenti intérieur. Et quand on est sensible au chant d'un oiseau, eh ben on est dans l'écologie. Et c'est tout cela l'écologie. On l'a tellement matérialisé qu'elle a perdu sa nature profonde.
Ce qui est formidable, c'est que c'est ici, en fait, dans ce jardin, dans ce verger, dans ce champ d'olivier, dans ce potager, que sont nées toutes ces idées, parce que vous les avez mises, bien sûr, en mouvement et en pratique. Qu'est-ce qui vous touche lorsque vous regardez, par exemple, ce fruit d'olivier ou bien ces courges-là?
Tout est l'expression de la vie. C'est-à-dire que la vie s'exprime de mille façons, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est le même souffle, la même vie, la même énergie, et qui est capable d'une diversité à l'infini. Il paraît qu'il y avait 1,3 milliard et quelques d'espèces sur la Terre. Nous on en a éliminé quand même pas mal, malheureusement, l'avènement de l'Homo sapiens ou ce qu'on voudra, enfin l'avènement de l'être humain, notre avènement a été très préjudiciable finalement à la planète. Je viens de faire publier un bouquin de Osborne qui s'appelle « La planète au pillage » qui déjà en 1949 avait démontré combien finalement notre avènement en tant qu'espèce est un avènement terrible. Et il y a des civilisations enterrées sous le sable qui font le bonheur des archéologues mais qui ont été de sable des déserts, lesquels déserts ont été provoqués par l'être humain, par l'outrance qui, quand il est sorti de « j'appartiens à la vie », pour la vie m'appartient, à ce moment-là, il est allé dans l'outrance des prélèvements, et on continue. Alors la nature, à un certain moment, pouvait compenser, maintenant elle compense de moins en moins, donc ce qui veut dire que le grand souhait que l'on puisse imaginer, c'est l'intelligence.
Écoutez, un grand merci Pierre Rabhi, puis à très bientôt.
Merci beaucoup Denis, en tout cas je t'encourage à continuer à rechercher et à mettre en évidence l'essentiel. Et moi, je crois que c'est très important.
Ce qui sauvera l'humanité, c'est sa conscience, c'est ce que nous dit donc Pierre Rabhi.
Donc un homme qui cultive, on va dire, sa vie sans engrais idéologique du tout et qui, je pense, nous fait du bien. Dans ce haut de mon amour, je crois que la première émission qu'on a dû faire, c'était une petite quinzaine d'années. Il n'était pas du tout connu, enfin très peu connu, on va dire, à l'époque. Et heureusement, maintenant, il a une très très belle audience. Donc on le retrouvera, ami de Jean-Marie Pelt, Le monde a-t-il un sens ? Ça, c'est leur dernier ouvrage, on va dire, commun. Et puis, dans ce studio, aussi pour laisser cette suite des vœux, sans véritablement non plus en gris idéologique, Frédéric Denré, ingénieur en environnement, je tiens à le rappeler, auteur de nombreux ouvrages. Le dernier s'appelle « Cessons de ruiner notre sol », cher Frédéric, et puis donc intervenant régulier depuis un petit paquet d'années dans cette émission. Qu'est-ce que l'on peut voir, quels sont aussi un peu vos vœux, on va dire, et les encouragements que l'on peut sentir?
Écoutez, moi je vois des petits colibris qui se sont réveillés en fin d'année, notamment le préfet du Finistère, qui ne savait pas que derrière, sous son képi, se cachait une tête de colibri. Qu'est-ce qu'il a fait le 27 décembre ? Il a publié, chose assez rare, un appel à la vigilance. Pourquoi ? Parce que le 21 mars, il y aura sans doute la marée du siècle, le coefficient de marée sera de 119. Et donc il a décidé, presque 4 mois avant, de dire « attention ». Préparez-vous, la mer va monter et si on ne se prépare pas, la catastrophe va arriver. C'est assez rare, c'est une des rares fois où on fait une prévention aussi en amont. Moi, ça me réjouit. Ça prouve peut-être que l'histoire de la faute sur mer ne va peut-être pas rester sans lendemain, qu'on est peut-être en train de prendre conscience de notre vulnérabilité. Et derrière tout ça, le petit colibri préfectoral, manifestement, va peut-être discuter ou voler avec les petits colibris de l'ONU qui ont décrété 2015 comme année internationale des sols. Et comme vous le savez, dans les inondations, dans les submersions marines, quand il y a des dégâts, c'est parce qu'on a changé l'usage des sols. On l'a bien vu à la faute sur mer, c'est parce qu'on a étanchéifié des sols, c'est parce qu'on a construit là où il ne fallait pas. Et là, moi, je vois un peu partout que les sols, oui, commencent à être une préoccupation. Il y a une réunion à l'Assemblée nationale l'autre jour, début décembre. On a parlé des sols, c'était la première fois. On a questionné l'aménagement du territoire, le désaménagement du territoire. Et derrière ça, l'usage qu'on a fait des sols, l'étalement urbain, etc. etc. Et des colibris, j'en vois aussi un peu partout, qui prennent leur envol depuis un moment. C'est ceux et celles qui s'occupent
des trames vertes.
Des trames vertes et bleues, c'est magnifique. C'est le bocage par-ci, le bosquet par-là, la zone humide derrière. Et tout ça, relié plus ou moins entre eux, fait que les espèces vont et viennent. Et derrière ces trames vertes et bleues, ces schémas régionaux de cohérence écologique, finalement, c'est une très très bonne opportunité pour faire une démocratie participative où on réunit tout le monde autour d'une table, les agriculteurs, les aménageurs, les propriétaires de carrières, les autoroutiers, les chasseurs, qui s'avèrent être d'excellents connaisseurs de tout ce qui reste comme
terrain,
point de nature.
Bien sûr, ouais.
Et j'ai vu ça dans les Pays de Loire, j'ai vu ça en Haute-Normandie. Les choses se font alors que personne n'en voulait. Et au final, les choses se font parce que derrière les biodiversités, on apprend à se parler et on apprend à découvrir que la nature n'a aucun prix parce que sans elle, le paysage perdrait tout son intérêt et donc on pourrait simplement plus aller se promener le dimanche. Donc les colibris sont nombreux en ce début d'année. Et je pense qu'ils seront de plus en plus nombreux. On va être l'année de la biodiversité en France sans qu'on s'en rende compte. Il y a beaucoup de discours qui me font dire que derrière le climat, on va beaucoup parler de biodiversité, de nature et de
bien-être.
Alors
peut-être que le président Hollande en parlera aussi demain matin chez Cohen entre 7h et 9h sur France Inter.
Lundi,
mardi
pas
matin.
Dimanche.
Oui, on est. Oui, pardon. Lundi. Matin, il faut que le monde se repose quand même. Qu'est-ce que l'on voit ? Parce que là, on voit bien aussi qu'il y a une prise de conscience. On verra ce que ça donne dans les exact, mais c'est quand même pas neutre ce qui s'est passé, en tout cas dans le discours. Je sais bien qu'on a eu d'autres discours, la maison brûle, etc. et tout, mais quand même.
Effectivement, François Hollande, comme Barack Obama, il a guère plus que ça que pour tenter de marquer sa trace dans l'histoire. C'est l'écologie, c'est la COP21, c'est-à-dire cette grande réunion internationale, pardon, sur le climat. Très bien, c'est peut-être que du discours, mais je ne crois pas. Il s'y est engagé personnellement. Il y a plein de choses qui me font dire qu'on aboutira peut-être, même sans doute, à quelque chose. En tout cas, je pense qu'en 2015 sera vraiment une année de l'environnement en France qui pourrait marquer notre histoire autant que le Grenelle il y a quelques années.
Frédéric, vous connaissez Alain Bougrain-Dubourg, bien sûr.
Alain Bougrain, oui, d'accord.
Ça vous dit quelque chose pour parler d'oiseaux de colibri, là, vous voyez très
oui,
bien,
oui,
le président
Bougrain-Dubourg
de la LPO. Bonjour, cher Alain.
Bonjour. Bonjour Denis.
Alors Alain, vous
êtes... Bonne année.
Oh, ben, bonne année, oui, oui. Et puis ça, faut se le dire vraiment plusieurs fois, les uns, les autres, à nos amis auditeurs, pour que ça fonctionne, pour que ça infuse. Vous êtes sur votre île de Ré, qui n'est pas encore submergée, loin de là, mais quand même, ça monte. Quels sont les vœux d'Alain Bougrain-Dubourg ?
Oh, ils sont multiples. Il y en a un qui me vient à l'esprit, c'est tout simplement que les propos du président de la République, qui veut faire de la France un pays exemplaire en matière de biodiversité, mmh. Soient mis en œuvre durant l'année 2015. Et je pense notamment à la manière dont on pourrait cohabiter intelligemment avec l'ours, le loup, le lynx et autres grands prédateurs. Il y a aussi une chose qui me paraît très très bien. Ne refaisons pas le monde. On met en œuvre la réglementation. Et quand on voit le travail que nous, les associations comme la LPO, on met en œuvre devant les tribunaux administratifs, voire le Conseil d'État, pour faire respecter le droit, je pense notamment aux ortolans qui continuent d'être aimablement braconnés,
bien sûr, oui.
Je pense qu'on ferait un grand pas en avant, respectant le droit, tout simplement. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire que pendant des années, on s'est investi dans ce qu'on appelle les espèces emblématiques. Par exemple, il y a quelques décennies, restait moins de 10 couples de cigognes. Aujourd'hui, il y en a plus de 2000. Les vautours fauves, il y avait 80 couples. Aujourd'hui, il y en a plus de 1000. Le castor est revenu, le lynx est revenu. Donc, ça prouve qu'on sait faire. Mais maintenant, il faut s'intéresser aux espèces qui nous sont proches et qui disparaissent. C'est-à-dire les petits passereaux notamment, je pense aux alouettes qui sont victimes d'une agriculture intensive, les hirondelles qui disparaissent également et bien d'autres. Donc voilà, il y a du pain sur la planche.
Toute la biodiversité ordinaire, ce dont on parle fréquemment dans cette émission. Et puis, il y a quand même cette fameuse COP 21, Alain Bougrain-Dubourg. Autrement dit, donc, cette réunion, on le sait, qui aura lieu au mois de décembre 2015 sur le climat.
Alors, à ce propos, la LPO a une idée assez simple. Quand il y a eu la Révolution française pour les droits de l'homme, on a planté, dans les 36 000 communes, l'arbre de la République. Eh bien là, c'est une révolution mondiale pour la planète. Et je propose qu'on plante l'arbre du climat dans les 36 000 communes. C'est une idée qu'on a lancée notamment avec les écomères. Et j'espère qu'elle va être suivie. De la même manière, il y a une idée jolie pour tout le monde. Vous savez, le Téléthon, c'est un compteur géant avec des promesses de dons. Eh bien là, ça serait un compteur géant avec des promesses d'action. Pendant les 15 jours de la COP 21, les gens, les écoles, les citoyens, les collectivités, les entreprises s'engageraient à faire un petit geste. Alors on va les aider pour ça, pour leur indiquer comment faire. Et puis on essaierait de faire grimper le compteur des promesses d'action. Voilà, il y a beaucoup d'idées. Simplement, il faut aimer la vie, quoi. Il faut aimer la nature. Et dès lors, on a envie de la défendre et de la respecter.
Alors, cher Alain, c'est évident que certains vont dire oui, mais donc, c'est pas forcément grand-chose. Peu importe, on est dans le symbole. Et on a besoin de symboles. Nos sociétés se sont construites sur des symboles. D'où, évidemment, ce fameux arbre. Un petit rappel, les écomères, aujourd'hui, ils sont pas loin de 5000. Donc, ça commence à être assez important. On va dire que ce sont des municipalités qui sont peut-être plus éveillées, plus en avance que les autres. Une petite image de nature qui vous est chère, Alain ?
Oh, c'est l'image que j'ai quasiment devant moi. C'est la mer qui monte et qui descend en fonction des marées, qui est si belle, mais si belle, et qui est pleine de vie. Cet estran qui est une vraie jungle dès lors qu'on se penche sur le petit peuple de la mer. Et puis les bernaches qui nous arrivent de Sibérie, qui sont là en nombre. Les mouettes, les goélands, tous les petits tournepierres qui sont là, les bécassos, voilà, c'est un bonheur, quoi. On a une chance en France, on a une richesse en biodiversité exceptionnelle, on est l'un des pays au monde qui est le plus remarquable, on a donc des responsabilités très importantes à cet égard.
Merci Alain, et puis belle année à vous.
Merci Denis, bravo pour l'émission, ça fait plaisir.
Merci, à bientôt.
Allez, bye bye, à bientôt, au revoir.
Merci Ludovic Asselot, Arnaud Caillet à la technique, à Caroline Debray qui nous assistait et Christophe Imbert, mon réalisateur, mon coloriste, il a colorié lui aussi donc
Pierre Rabhi, entre autres. Merci à Anne Gouzon qui nourrit les sites. 01 56 40 40 35, c'est votre numéro. 01 56 40 40 35. Vos vœux, n'hésitez pas. Coup de cœur, coup de gueule, vous avez l'habitude. Vraiment, n'hésitez pas. Alors, ça a franchement foiré hein, cette semaine. Mais là, ça y est, on lui a donné un grand coup de pied dans le répondeur informatique et ça fonctionnait de nouveau. Donc, pardon pour celles et ceux qui avaient essayé. L'actu du Montilou, ce sera demain à 19h54. Et puis, la librairie francophone avec l'ami Emmanuel Quirade. Bah oui, on va pas l'oublier quand même, mais non. Ce sera d'ici quelques minutes. Je vous souhaite encore une très, très belle année. Vous mettez ce que vous voulez derrière, au choix multiple. Simplement, prenez soin de vous.